toute la vie dans les Alpes du Sud. Alpes 1 Magazine.
Sandrine Tourillon, bonjour.
Bonjour.
Bernard Odoul, bonjour.
Bonjour.
Sandrine Tourillon, directrice des éditions des Hautes-Alpes. Et Bernard Odoul, c'est votre premier livre édité aux éditions des Hautes-Alpes. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin sur l'antenne d'Alpes 1. On va parler de l'histoire de Rochebrune. Vous allez nous emmener du côté du petit village de Rochebrune. Alors, je vais juste lire les trois premières lignes de la préface qui est signée par le sénateur Jean-Michel Arnaud. Merci et bravo à Bernard Odoulot d'avoir patiemment retracé l'histoire de Rochebrune depuis le Moyen-Âge. On est donc en 1200 lorsque le nom de Rochebrune est la première fois apparaît.
Oui, tout à fait. En plus, c'est un nom latin qui a été donc modifié au fil du temps. Donc, c'est la première fois qu'apparaît Rochebrune, qui était étroitement liée à la commune de Brézier, qui est un petit peu sa sœur jumelle, quoi.
Alors, si on résume là en 2023 de Rochebrune, on pense aux trois lacs, on pense aux arboriculteurs, on pense un peu aussi à la vigne. Alors, si on retrace l'histoire, si on revient des centaines d'années en arrière, qu'est-ce qui se passait à Rochebrune, Bernard Odoul?
Ben, Rochebrune, c'était un village, donc, comme je l'ai dit, très étroitement dépendant de Brézier, puisqu'il ne formait qu'une seule paroisse, qui dépendait de l'archevêché d'Embrun, l'archevêque d'Embrun étant le seigneur du lieu, donc un homme très puissant. Et la particularité de ces deux communes, c'était que les habitants payaient les impôts à l'archevêque et non pas au roi.
Mmh.
Alors ça remonte encore plus loin, ça remontait à l'époque où notre région faisait partie du Saint-Empire romain germanique, et donc l'archevêque d'Embrun avait reçu de l'empereur cette prérogative. Donc les habitants du lieu, ben écoutez, ils étaient pauvres, encore plus pauvres que ceux de l'autre côté de la Durance. Et ils vivaient chichement d'élevage et puis de récolte de froment, de seigle, etc. Sachant que il était très difficile de franchir la Durance, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de pont.
Et oui, j'allais vous en parler. Voilà, il n'y avait pas de pont entre Rochebrune, Romolon. Comment on faisait pour traverser cette Durance qui, à l'époque, n'était pas un petit filet d'eau?
Eh oui, tout à fait. La Durance était un véritable fleuve, surtout à la fonte des neiges. Donc, on traversait la Durance par le biais d'un bac. Donc il y avait ce qu'on appelait des barquiers, c'est-à-dire des personnes qui faisaient franchir la Durance aux habitants et aux animaux, moyennant rémunération bien sûr. Et ce bac, ben, c'était compliqué parce que c'était très précaire, il y avait des gens qui se noyaient, les gens ne savaient pas nager, les animaux aussi se noyaient parfois, et il a fallu attendre les années 1830 pour qu'une société d'actionnaires se constitue par des gens de Romolon qui étaient plus aisés, parce que à Romolon il y avait des vignes et on vendait du vin un petit peu partout en Provence, et ouais, pour faciliter, comment dire, le commerce du vin en direction du département voisin, ils ont donc créé cette société d'actionnaires pour construire un pont qu'ils appelaient le pont de Romolon. D'ailleurs, au début, même s'il ne se situe pas sur la commune de Romolon. Mmh. Et donc, le premier pont a été construit grâce à l'autorisation du roi Charles X en 1830. Voilà.
Alors ça, c'est en 1800. Enfin, le pont, ça a quand même permis de se développer. C'est là que le progrès, c'est la marche vers le progrès. C'est la partie numéro 3 de votre livre. Et on va tout de suite passer au XXe siècle. Et là, c'est de grands bouleversements, évidemment. Et puis, on va parler, évidemment, du barrage de Serre-Ponçon.
Oui, alors, donc, comme toutes les communes du coin, Rochebrune a été impactée par la construction du barrage de Serre-Ponçon, déjà parce qu'après, la Durance était régulée, et ça a permis de créer des vergers, d'étendre beaucoup les terres cultivables. Mais ce qui a le plus impacté Rochebrune, c'est la construction du canal dit de Curban.
Mmh.
Le canal qui part donc de Serre-Ponçon, d'Espinasse, et qui traverse complètement la commune de part en part, dans le sens de la longueur, et qui ensuite est souterrain jusqu'à Curban. Mais du coup, la construction de ce barrage a beaucoup affecté les terres agricoles, donc les gens ont été expropriés par EDF,
oui,
pour construire le canal, et du coup, ça a été une catastrophe pour la commune, parce que les meilleures terres agricoles ont été neutralisées par le canal de Curban, Désormais, le canal, il fait intégralement partie du paysage, hein, mais c'est vrai que dans les années 60, ça a été quand même assez compliqué. Les plus anciens s'en souviennent encore et disent que ils ont jamais été indemnisés à la hauteur du préjudice, quoi.
Voilà, ça a été une vraie bataille avec EDF, et ouais. C'est très bien documenté d'ailleurs dans votre livre. On retrouve par exemple une photo de la manifestation du 3 avril 1969, où les hommes étaient vraiment en colère, ouais. Les agriculteurs expropriés de Rochebrune, avec des photos d'enfants perchés, ouais. Au sommet des caterpillars.
Oui, ouais, bah, j'y suis.
C'est vous en photo.
Un des enfants devant le caterpillar, c'est moi, c'est mon père, enfin nos parents qui nous avaient demandé de nous mettre devant le bulldozer afin que le conducteur du bulldozer stoppe ses travaux. Ouais, effectivement, là c'était une deuxième partie parce que le canal a été construit, ensuite il a été élargi à un certain endroit, et là on a de nouveau donc exproprié des terres, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette manifestation. Bon, depuis, comment dire, le climat évidemment s'est beaucoup apaisé depuis le temps, avec les relations avec EDF se sont apaisées également. EDF paye des impôts puisque le canal est une construction qui permet à la commune de bénéficier d'impôts locaux. Mais voilà, je pense que c'était intéressant de retracer cette histoire parce que on ne peut pas imaginer que la commune telle qu'elle était avant sans connaître cette histoire, quoi.
Vous avez été enseignant, vous étiez directeur d'école également, Bernard Rodoul. C'est à retrouver ce livre Rochebrune au fil du temps, l'eau, la terre, les hommes. C'est passionnant, j'en suis certain, non pas seulement pour les habitants des environs de Rochebrune, mais je pense pour tous les Hauts-Alpins, pour découvrir, c'est très très bien documenté et c'est aux éditions des Hautes-Alpes. Un mot, parce que c'est la première fois, Bernard Rodoul, qu'il écrit un livre et que vous recevez dans votre édition, dans votre maison d'édition, Sandrine.
Oui, et c'était un vrai plaisir de découvrir cette histoire, un tout petit village, mais qui rentre dans l'histoire de notre département. Donc voilà, une belle chose à découvrir.
À découvrir, et en plus de ça, si vous êtes sympathique, je le garde et je l'offre aux auditrices et aux auditeurs, dédicacé évidemment par l'auteur Bernard Rodoul. Rendez-vous sur les éditions des Hautes-Alpes, éditions-des-hautes-alpes.fr. Vous retrouvez tout le catalogue évidemment, et vous pourrez acheter ce livre qui est dans toutes les bonnes librairies.
Tout à fait.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin. Bernard Rodoul, Rochebrune au fil du temps.
Merci.
Toute la vie dans les Alpes du Sud. Alpes 1 Magazine.